Bonjour, Jacques-Louis Leroy. J'ai écouté une partie de votre émission aujourd'hui sur les rémistes et les faux rémistes qui touchent les trucs sociaux, là. Mais j'ai pas entendu ou je l'ai pris trop tard. Il y a quelques temps dans le Canard enchaîné, une rémiste célèbre des Hauts-de-Seine, qui touchait du RMI et qui payait l'impôt sur la fortune. Une certaine demoiselle Pinault Valenciennes. Ça, j'ai pas entendu parler de ça dans votre émission.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe. Je viens d'écouter votre émission sur ces salauds de pauvres qui sont en train de gréver le budget de la France tout entière, hein, avec leur fraude sur le RMI. Et ce qui me questionne, c'est quand même qu'on a là deux beaux cas d'école. D'un côté, les journalistes qui ont annoncé la mort de ce pauvre Pascal Sevran une semaine trop tôt, ont dû faire des excuses, ont été convoqués, etc. Enfin, ça fait un petit raffut quand même dans le Landerneau. Et de notre côté, il y a des journalistes qui se permettent de ne pas faire d'enquête, de ne pas vérifier leurs infos, de diffuser une information biaisée, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui s'en sortent bien. Il y a un vieux cas d'école dans le journalisme de PPDA et de Castro. On peut pas ne pas en parler. Ces gens-là continuent à présenter les infos à la télévision comme à la radio. Est-ce qu'il n'est pas possible de nettoyer un peu la profession? Alors, c'est vrai que c'est une question naïve, hein. J'ai été une toute petite journaliste pendant quelques années dans un tout petit hebdo local, et malheureusement c'était dans les années 90, au moment des restructurations. Il faut dire que à ce moment-là, on a vidé tous les gens qui avaient une certaine conception de leur travail, une certaine conception de l'éthique aussi, et ne sont restés j'exagère un petit peu, il y en a quand même quelques-uns qui sont passés au travers des mailles du filet, mais enfin en majorité sont restés les gens qui faisaient ce qu'on leur disait, et on a finalement les journalistes qu'on mérite, voilà.
Oui, bonsoir Daniel, et un grand merci à toute l'équipe pour l'émission de cet après-midi sur le train de vie des RMistes. Je viens de comprendre pourquoi j'ai reçu un petit questionnaire de la Sécu il y a quelque temps. Je suis pas RMiste, mais je suis bénéficiaire du FSI, le Fonds spécial invalidité, le fonds qu'on appelait avant le FNS, le Fonds national de solidarité, je crois. C'est une aide sociale qui complète la pension d'invalidité pour pouvoir atteindre en tout le minimum social qui est plafonné à 640 euros. Je dis bien 640. Ce questionnaire portait non pas sur mon train de vie, mais sur des questions financières. Si j'avais un compte de caisse d'épargne, si j'avais un code EVIS, des trucs comme ça, si j'avais placé de l'argent en banque, etc. Voilà, ils veulent s'imaginer ce qu'on peut bien faire quand même avec 640 euros par mois. Comme si on était même au moins capable de mettre un seul sou de côté. On n'arrive déjà pas à assurer les minimums élémentaires et à s'en sortir sans angoisse, et on vient encore nous suspecter de mettre de l'argent en bourse. Véridique. C'est un comble, et ça montre bien que ceux qui font les lois et qui prennent des responsabilités n'ont aucune idée de la valeur de l'argent, n'ont aucune idée des besoins élémentaires compte tenu de l'organisation de la société. Ils ignorent totalement ce que c'est que vivre avec si peu d'argent. Alors encore merci pour cette émission, qui montre bien que les pouvoirs publics n'ont pas vraiment l'intention d'aider les gens à vivre correctement, mais qui sont plutôt préoccupés à suspecter les plus mal lotis, pendant qu'il y a des milliards qui sont brassés dans les hautes sphères du capital.
Oui, bonjour. C'est Nicolas à l'appareil. Je viens d'apprendre que demain soir, il y a un repère de la Bastille, celui qui se fait à Marseille. Ça se passe à la librairie de la Passerelle, c'est à 19h30, et je tiens à vous prévenir que je suis au courant. Donc je serai personnellement sur place avec les forces de l'ordre, le quartier est bouclé, le couvre-feu est ordonné à partir de 19h. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Au revoir.
Oui, allô, bonjour, c'était Sarah Kerina à l'appareil, donc qui avait envoyé un document sonore pour la Bas Fidelity. J'ai eu un appel de Antoine Chao ce matin pour... pour présenter le travail qui va être diffusé dans la semaine. J'aurais voulu lui apporter une information complémentaire concernant ce document, à savoir qu'il était destiné à un projet donc à la fois radiophonique et à la fois théâtral, dont le titre était « On a toujours été séparés », qui est le titre du livre avec lequel j'ai fait aussi un ouvrage. Merci pour vos émissions et puis vous dire ma joie et ma satisfaction, ma fierté de pouvoir être dans cette émission que j'écoute toutes les après-midi.
Et ben voilà, Sarah va pouvoir s'écouter aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est la baffée des petits. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on vous avait présenté des reportages et des documentaires sonores avec les élèves de l'école de journalisme de Lille, des étudiants en journalisme avec qui on avait travaillé Antoine Chao et moi-même. Et puis on s'était dit, oui d'accord, mais ça c'est les étudiants en journalisme, mais pourquoi pas les autres? Il y a des tas de gens qui dans ce pays aiment toujours la radio, aiment bidouiller des sons, s'exprimer et s'emparer de ce langage sonore formidable qu'est la radio. Alors on a lancé à l'époque, vous vous souvenez peut-être, une proposition, envoyez-nous vos reportages, vos documentaires sonores, et puis on en choisira en toute subjectivité, Antoine Chao et moi-même et l'équipe de là-bas si j'y suis. Et puis voilà, on les diffusera un beau jour. Et ben, ce beau jour est arrivé. C'est aujourd'hui cette histoire de montrer que le paysage radiophonique est riche en France. Il y a beaucoup de la radio se porte bien. Il y a beaucoup d'auditeurs, il y a beaucoup de chaînes de radio, etc. Mais nous trouvons, pour ce qui nous concerne, que le langage est un peu pauvre. Et la radio, en tout cas, propose une palette d'expressions, de sons, de jeux possibles avec les sons qui sont insuffisamment utilisés, explorés, exploités. À Radio France, en général, on y tient encore, on fait attention à tout ça. Mais c'est comme un combat d'arrière-garde, un peu, de jouer avec les sons, d'utiliser ce langage-là. Eh ben, on va voir aujourd'hui que non, il y a un peu partout, il y a des gens qui sont très attachés à ça, qui savent s'en servir et qui ont envie de s'en servir. Et on va en avoir une démonstration jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Frédéric. Alors oui, moi j'en ai un fraudeur multimillionnaire. Ça s'est passé dans le 92. C'était la fille d'un grand industriel qui s'est illustré dans les années 90. Et voilà, donc je ne dirais pas que c'est Pino Valenciennes, mais je ne dirais pas. Et le président du Conseil général du 92, qui est aussi, je crois, président de l'UMP. N'a pas jugé utile de porter plainte contre ce multimillionnaire parce que bon, il faut être social quand même, hein, faut pas déconner, hein. Voilà. Par contre, Monsieur Lambert, le chômeur qui remplit pas son papier à temps et qui arrive pas à la convocation à la minute près, par contre, là, pas de pitié, hein. Ça y va. Non, moi, je propose que ce gouvernement déclare carrément la guerre aux pauvres. Comme ça, ça sera plus vite fait, quoi. Mort aux pauvres. Mort aux pauvres. Que l'on crève. Voilà. Bien fait. Allez, ciao.
Bonjour, Stéphane de Bruxelles. Merci beaucoup pour votre émission sur la stigmatisation des démunis. Et voilà, en Belgique, nous aussi, on a notre stigmatisation des démunis avec une petite loi perverse, activation des chômeurs, etc., j'en passe. Et puis d'autres gentilles petites lois qui favorisent le capital, qui favorisent les riches et qui ne semblent pas être connues de tous. Un petit exemple, une loi votée il y a quelques années par le Parlement, député socialiste, avec députés libéraux qui s'appelle la loi sur les intérêts notionnels. Traduction, intérêts fictionnels. Alors ça permet à une entreprise de déduire les intérêts de son capital comme si elle déduisait les intérêts d'un emprunt. Ces intérêts donc déduits des bénéfices permettent à certaines entreprises, souvent des multinationales, d'atteindre un taux d'imposition de 0%. Et quand leur déduction dépasse leurs bénéfices, eh bien la déduction peut être reportée sur 7 années. Voilà, on ne se lasse pas de s'étonner de du peu de fois dont on entend parler de ce problème des internationaux qui, alors qu'il était voté, était prévu de coûter 500 millions d'euros, mais manifestement atteindra rapidement les 3 milliards d'euros, et qui évidemment doivent être récupérés, puisque ce sont des impôts qui ne sont pas perçus. Je vous laisse deviner la meilleure manière de les récupérer. On baissera pas la TVA sur les produits pétroliers, par exemple, et puis surtout, on sacra dans les services publics, l'enseignement. Voilà, merci.
Et il faut dire bonjour et à la radio. Aujourd'hui, à la télé, on va vous parler de mon
réflexe. À la radio.
Ouais.
Alors, vas-y,
fermez vos yeux.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chaot. Là-bas, si j'y suis, là-bas fait des petits.
Flight number 2, arriving from.
Le Yahoo, donc,
c'est de... Voilà, c'est de la radio. C'est de la radio. C'est de la radio. Une langue dont on ne parlerait que quelques mots. Un piano dont on ne jouerait que 3 ou 4 notes. C'est un peu ça la radio aujourd'hui, le paysage radiophonique ressemble un peu à la Beauce. C'est beau, c'est grand, mais c'est plat. Il y a les radios musicales, bon, les radios de contenu, bon, les radios d'information, bon, les radios généralistes. Bon, tout ça, ça marche bien, mais c'est un petit peu de la radio sans radio, c'est-à-dire de la radio sans son. Vous avez une dame qui parle avec un monsieur, et puis un disque, et puis après la dame parle avec une autre dame, et puis un disque. Et puis la dame parle et elle dit qu'on va entendre des publicités et on entend des publicités pour Carglass, Carrefour, pour un beau livre. Et la dame dit ensuite qu'il va y avoir les informations. Et puis en effet, il y a les informations. Et après les informations, il y a un monsieur qui parle. Et puis il y a un disque, etc. On peut utiliser la radio autrement. On peut utiliser la radio autrement en utilisant des sons en un certain ordre, assemblés, qu'on peut assembler en un certain ordre. Et ça peut donner des sens différents. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que la radio... C'est bougrement appauvri le langage radiophonique, c'est beaucoup appauvri l'audace radiophonique, à peu près disparu. Souvenez-vous, pour les plus anciens, en 1981, l'explosion des radios libres, on a assisté à toute une fête, une effervescence, beaucoup d'inventions, et puis assez vite, tout ça a été normalisé, tout ça a été formaté, bref. Le langage radiophonique, l'expression radiophonique est un peu pauvre, on se demande bien pourquoi. C'est une longue histoire qu'on pourra raconter un beau jour. Toujours est-il qu'il y a des résistants. Il y a à travers ce pays des quantités de gens qui font de la radio, qui font du reportage. Aujourd'hui, on peut se procurer des magnétophones assez facilement. Aujourd'hui, on peut faire du montage et du mixage avec un ordinateur et avec des logiciels faciles d'accès. Reste évidemment ensuite à s'y mettre, à avoir l'imagination et à écrire littéralement avec des sons. On avait lancé l'idée avec Antoine Chao, et puis on a reçu pas mal de propositions, pas mal de documentaires, de sons, de toutes sortes. On les a écoutés soigneusement, c'est Antoine qui s'occupait de ça. Et puis voilà, aujourd'hui, on vous présente quelques-uns de ces échos sonores parmi ceux que nous avons reçus. Alors, les auteurs vont se présenter. Et puis, on va écouter des formes très différentes, des choses qui sont faites avec un matériel de bonne qualité, des choses qui sont faites quasiment avec un téléphone portable. Mais voilà, on espère agrandir un peu le champ du possible radiophonique. C'est jusqu'à 16h. Là-bas, fais des petits.
Il est temps de faire un choix.
Je veux faire de la radio.
Notre fils veut faire de la radio.
Pour faire de la radio, il faut avoir une voix, il faut avoir des facilités verbales. Et tu ne dis jamais un mot. Tu veux vraiment faire de la radio? D'accord. Si tu veux tenter l'aventure de la radio, tu peux toujours t'orienter sur la communication. Un diplôme a été créé à Boston.
Je suis Adrien Charmeau, j'ai 25 ans. J'ai réalisé ce documentaire à Angoulême. C'est un sujet sur la réhabilitation des quartiers populaires. C'est quelques années avant de la destruction de bâtiments où on déloge les habitants. Le quartier Angoulême, il s'appelle Basso, assez isolé. C'est un quartier comme on en voit plein dans des petites villes avec des bâtiments pas très hauts, mais où il y a une population de gens qu'on n'écoute pas trop d'habitude. Le documentaire, il s'appelle Les Encombrants. Les Encombrants parce que le premier jour, je suis tombé sur des bâtiments vides, alors des bâtiments de plus de 200 personnes vidées, où il restait une famille, et il restait beaucoup plus de meubles en bas de la cage d'escalier à jeter, et il y avait des personnes qui étaient en train de vider les meubles. Et je me suis dit que ça faisait un beau parallèle avec les habitants qu'on délogeait et qu'on allait virer comme ça, comme des malpropres, comme des vieux meubles, des vieilles télés. Ce documentaire Les Encombrants, je l'ai réalisé au sein d'un master documentaire à Angoulême qui s'appelle Créadoc. La première année du master, c'est consacré au documentaire sonore. Et la deuxième année, c'est un film. Et je me destine à faire de la réalisation documentaire.
Je m'appelle Mademoiselle Couillature. Voici un tracteur. Voici un tracteur. Il va détruire une maison.
Les Encombrants, un documentaire d'Adrien Charmeau.
Comme ça?
Ouais. Là, on est en train de virer les encombrants.
Ah, il fallait pas qu'il tombe.
Arrière. Tu vas à l'autre.
Je suis née ici et ma petite sœur aussi. En fait, nos parents sont venus immigrer il y a 30 ans de ça.
34.
34, donc mon père est arrivé le premier. Ensuite, ma mère est arrivée. Ma grande sœur est née au Maroc. Et par la suite, mes parents se sont installés. Et quelques années après, ils ont habité à Basso. Moi, quand je suis née, ma mère habitait déjà dans cet appartement. Donc ça fait presque 24 ans.
On est en train de virer les encombrants.
Arrière.
Moi, j'habitais au-dessus. J'ai déménagé en juin dernier. Depuis que j'ai déménagé, j'ai jamais franchi le pas du troisième étage. Pourquoi? Parce que je ne veux pas voir ma porte scellée. L'appartement où j'étais, il est scellé. Je vous assure, je suis jamais remontée. Mais alors moi, j'ai eu la chance, c'est que j'ai fermé la porte, je suis venue chez ma mère, on avait déjeuné. Et je vais passer un petit coup de balai là-haut. Mais pour l'état des lieux, j'ai pas assisté, parce que je voulais pas. Mais je veux pas avoir une mauvaise fin. Quand on déménage, parce que c'est un choix, c'est pas comme quand on vous l'impose. Quand c'est un choix, c'est votre choix. C'est vous qui voulez partir. Mais quand on vous impose de partir, c'est autre chose. Mais je pense pas qu'on ait baissé les bras. C'est pas qu'on ait baissé les bras. C'est qu'on nous rabaisse tellement. On nous rabaisse tellement que vous avez beau lever les bras, vous n'êtes jamais assez. Mais quand vous habitez dans un appartement, quand vous allez faire vos courses tous les jours, vous emmenez vos enfants à l'école, ça, c'est pas délaisser les bras, c'est quand même continuer à vivre.
J'ai habité à la Charité. J'ai habité au Noistier. Ensuite, au bâtiment en bas, c'est les c'est appelé les Citis. Alors ça, c'est les Joncs, c'est CJ, donc c'est les Joncs. Le B là-bas, c'est Brande. Après, c'est lesquels? Les K, c'est devenu les Calices. Des noms de fleurs, des noms d'arbres. Ça, là-bas, les N, c'est les Noistiers. H, c'est devenu les Hêtres. Au départ, c'était des lettres, c'était alphabétique, A, B, C, D. Et après, au fil de l'évolution des mentalités, là, les pays pauvres, c'est devenu pays en voie de développement. Là, ça participe de la même logique, quoi. C'est le choix des noms, quoi.
Donc, je suis Émilie Ballas. J'ai travaillé à la mairie d'Angoulême pendant 10 mois l'année dernière. Donc là, j'y suis plus. J'ai démissionné de mon poste il y a 2 mois pour des raisons personnelles. Mon poste était animatrice des comités locaux de concertation des opérations de renouvellement urbain. Ça, c'est l'intitulé. Donc en gros, je m'occupais de tout ce qui est organiser la concertation avec les habitants. Donc pour l'instant, on les fait intervenir sur des points très ciblés, quoi. On leur donne absolument pas le pouvoir. Enfin oui, je veux dire, il y a des comités de concertation, c'est pour faire passer la pilule, hein. Ah oui, ça c'est... Ça oui.
La vérité, si tu veux déménager quelqu'un, tu vas le donner où il veut, lui. C'est pas où on va te jeter, n'importe où.
Voulez-vous.
Moi, par exemple, j'ai demandé Saint-Michel, maison n'importe quoi, c'est-à-dire un toit. J'ai demandé là-bas, derrière, là-bas.
Ah ouais, des pavillons.
Un pavillon là-bas, tu sais ce qu'il m'a dit, Kaminski, le concierge. Il m'a dit, monsieur, là, tu payes 150, là-bas, c'est 300. J'ai dit, va te faire foutre, moi, je parle pas du tout, moi. Ça, c'est pas bon. Mais de toute façon, je sors pas. Et je pose pas mon dossier. J'avais le retard de loyer, j'ai pas payé. J'ai passé au tribunal. Dès que je commence à payer maintenant, ils vont me dire comme ça, du gars. Non, je ne sors pas. Tu me donnes où je veux, moi. Moi. C'est moi qui commande. Je paye mon loyer, c'est moi qui commande.
Les Encombrants. Un documentaire d'Adrien Charmeau. Avec les voix d'Aziza, Nadia, Olga, Noir, JC, Abdel, Émilie et Alain. Prise de son, Sébastien Rollo. Accordéon, Lucille Duchemin. Je remercie les habitants de Basso et celles et ceux qui ont participé à la réalisation de ce documentaire. Réalisé au sein de Créadoc.
Voilà, ça c'est l'extrait de ce reportage, de cet auditeur qui s'appelle Adrien Charmeau. Ça s'appelle Les Encombrants et c'est pas mal du tout. C'est très bien fait, vous avez des beaux sons, le beau matériel, on sent qu'on est bien encadré. Et c'est un travail très, très clean, très propre. Alors, un autre reportage qu'on a reçu, c'est celui de Marine Vlaovic.
Je m'appelle Marine Vlaovic, je suis étudiante en histoire, j'ai 23 ans. J'ai fait ce reportage Barbès, on fait la cigarette, à l'appel en fait de la BAF et des petits. J'avais déjà enregistré quelques manifestations ou fait quelques entretiens en Amérique latine. Puis ce jour-là, j'ai repris mon dictaphone et je suis descendue à la station Barbès à laquelle j'habite. Et pour moi, ça me semblait important. Ça faisait déjà un moment que ça me trottait dans la tête parce que c'est un peu le moment folklorique de la journée quand on prend le métro ou quand on en sort. Il y a ce cri Marlboro, légende qui nous alpague. Ça a toujours été en fait une grande question pour moi. Qui sont ces vendeurs de cigarettes? C'est-à-dire d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils sont arrivés jusqu'ici en France, et aussi pourquoi ils le font. Enfin voilà, qu'est-ce que c'était que ces vendeurs de cigarettes à la sauvette?
Barbès Rochechouart, c'est le monde, concentré là, sur cette petite place. Un peu plus au nord que le centre de Paris, mais au centre du monde. On dit que Barbès, c'est un point de passage obligé pour les Algériens fraîchement immigrés à Paris. Quand on arrive du bled, on vient à Barbès pour rencontrer les amis, les compatriotes, les inconnus, les Français, les Maliens ou les Hindous. On y vient pour faire ses affaires, retrouver les saveurs du bled ou pour vendre des cigarettes. Cigarettes au rabais. À la descente du métro, le cri saccadé des vendeurs à la sauvette se répète à l'infini. Marlboro, Marlboro. Mais qui sont-ils? Qui se cache derrière cette litanie? Quels itinéraires de route et parcours de vie peuvent-ils nous conter? Comment on arrive d'Azazga, de Tizi Ouzou ou d'Elbiar jusqu'ici? Et si à Barbès, on était à deux endroits à la fois, là-bas et ici?
Je m'appelle Mouloud, j'ai 23 ans, je viens de l'Algérie, de la Grande Kabylie en fait.
T'es arrivé à quelle heure là ce matin?
9h. 9h, je vends jusqu'à 9h du soir.
T'as vendu combien de cigarettes aujourd'hui?
3 cartouches. On a 8 euros à la cartouche. Donc c'est pas suffisant. J'y arrive exactement le 5 janvier. Et j'ai demandé un visa en Chine parce que c'est facile avoir un visa en Chine. Et voilà, j'ai parti, j'ai fait un escale à Roissy. J'ai essayé de sortir, mais c'est pas facile, voilà, parce que j'ai trouvé la police qui m'attend à l'avion, juste à ma sortie de l'avion. Elle m'a amené, m'a embarqué, voilà, au commissariat. J'ai passé tout l'escale que j'ai 23 heures d'escale, je l'ai passé au commissariat, voilà. Et après, voilà, elle m'a embarqué. Et m'ont maltraité encore. Et ils ont été avec moi jusqu'à l'avion. Ils ont rentré à l'avion avec moi. Ils m'ont embarqué, j'étais en Chine, voilà. Et le problème qui se pose, quand j'étais en Chine, j'ai pas d'argent, j'ai galéré, voilà, franchement, j'ai galéré en Chine. Et il y a un type chinois qui m'a beaucoup aidé. Elle travaille à l'aéroport, en fait, elle s'appelle Chadi. Il travaille à l'aéroport de Pékin. Je lui ai dit, je lui ai raconté mon histoire, voilà. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais essayer de t'aider. Voilà, il m'a aidé, franchement, il m'a aidé. Il m'a amené à la maison. Et j'étais chez lui dans 3 jours. Il m'a changé le billet. Il m'a changé le billet. Tu sais, le billet pour le changer, il faut payer 100 euros. Il m'a payé 100 euros, il m'a changé le billet. Voilà. J'ai retourné en... Voilà, en Algérie, voilà. Et parce que comme j'ai pas un vol direct, j'ai fait un escale, une deuxième escale. Et c'est là que j'ai sorti, voilà.
Donc quand t'es arrivé à Roissy, t'es sorti?
Il y avait un cousin à moi ici qui m'a fait sortir, voilà. Il m'a dit, pas de problème, je vais t'amener à Barbès, comme ça tu vas voir comment les gens vendent la cigarette. Il n'y a personne qui a des papiers, ils vendent les cigarettes normales, voilà. Et j'étais avec lui, je vois à peu près comment les gens se comportent avec les clients, comment elle achète la cigarette, comment elle vend, à combien. Et c'est là que j'ai commencé, voilà. Si tu ne vends pas le Marlboro, tu ne manges pas. Moi, j'ai venu par curiosité, voilà. Parce que les gens au bled, ils savent que la France, c'est un paradis, voilà. Bon, c'est un bon pays, j'ai pas dit le contraire, mais voilà. c'est pas tout ce qu'on a pensé au bled. Quand tu vas arriver en France, c'est pas la même chose, voilà. C'est pas le paradis. Mais si je trouve mieux, je reste pas à Barbès parce que c'est pas un travail. Je reste comme ça debout toute la journée, tu crées Malboro. C'est pas une vie, franchement là. C'est pas une vie. Ouais, c'est un perroquet. Moi, quand je veux la cigarette comme ça, je me sens mal à l'aise. Oh là, je me sens mal à l'aise. C'est comme si tu demandes la charité ou je sais pas. C'est vrai ou pas? Oh là, ça me dégoûte. C'est un travail, mais ça me dégoûte. Le fait que tu peux pas travailler librement parce qu'il y a toujours la police qui te suit, ça veut dire c'est mal
cœur. Il y a une sorte d'histoire, hein.
Tu vends un paquet, et après il faut que tu te caches et après tu retournes vers vendre. Malboro, c'est. Tu vends un paquet, et après il faut que tu te caches et après tu retournes vers vendre. C'est pas une vie, franchement pas.
Ψάχνω τα κορμάκια του κορμάκι σου, baby.
Dalida, Dalida, come back, don't you Harouida. I need you.
Ya Fatma, elle a quitté la Casbah. Ana Mabrous. Elle a quitté la Casbah. شوف انا منحوس اخسى علي
لفت ملك يديلا كسبة
شوية مستوى قول الك يديلا كسبة شوية مهبولي على يمو
لفت ملك يديلا كسبة
وين انا بابوش يعاني ترنسفات إلا كيتي لا كسبة أم فونتوم هيدلس دربوش ولا فضيحة دور
لا كسبة
ويل نو فلوس لبولز ماما لبولز
إلا كيتي لا كسبة
أوتي أوتي بلوز
إلا كيتي لا كسبة
سورة نير دو فيرو Je crois que c'était un vendredi 12. Oh mamma mia, Fatma Galbia, Jibla Awiya. Oh mamma mia, oh mamma. J'ai passé, goulé, passé, mais à des côtés, mais des bosses, des atteignes, des bosses, atteignes.
Je m'appelle Morgane Tual, j'ai 23 ans, je viens de Rennes et j'étudie le journalisme depuis 2 ans au CELSA, c'est une école qui se trouve à Paris. Je finis d'ailleurs ces études dans quelques semaines. J'avais entendu parler de ces personnes qui vivent dans le Finistère par une amie qui a réalisé un mémoire sur le sujet. Ça m'a paru très intéressant, c'est des personnes donc que j'ai rencontrées une journée, qui sont vraiment des personnes que j'ai trouvées incroyable, hors du commun, vraiment très intéressante. C'est des personnes qui ont choisi de vivre avec leurs convictions, en accord avec leurs convictions. C'est des convictions assez écologiques, et c'est pour ça qu'elles ont décidé de vivre un peu en accord avec la nature. Elles vivent dans des yourtes, dans des cabanes, ou même dans des igloos de terre qu'ils ont fabriqués. Alors ce documentaire, je l'ai intitulé « Un vendredi à Bezec ». Bezec, c'est un tout petit lieu dit dans le sud du Finistère. Le vendredi, c'est parce que c'est une journée particulièrement animée. Ce jour-là, c'est le jour du marché, c'est le jour où on fait le pain, c'est le jour le plus convivial.
Bon, ben voilà, on va y aller avec Morgane. Morgane, elle vient de tout vous dire et on va l'entendre dans le cadre de cette heure qu'on vous propose, La Baffe et des Petits. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, on avait fait une série comme ça de reportages avec des élèves qui faisaient les reportages de l'école de Lille. Et on a dit pourquoi pas étendre cette proposition à tout le monde, à tous les auditeurs. Voilà, alors vous en avez déjà entendu deux, c'est assez rigolo l'histoire de Marlboro. Le gars qui vient d'Alger jusqu'à Paris, mais en passant quand même par Pékin, et qui maintenant fait le perroquet en faisant Marlboro, et qui est quand même assez dégoûté. Là, c'est Morgane, c'est un vendredi à Bezec.
Un vendredi à Bezec, c'est 3 générations, ensemble. C'est Evelyne, la jeune doyenne de 49 ans, Sandrine qui fabrique son pain à l'eau de pluie,
un peu boulangère et un peu agricultrice.
Et Christian qui récolte ses légumes bio. Il vient de devenir papa.
Elle a accouché à 18h de lune, quoi.
C'est la troisième génération. Des enfants, beaucoup d'enfants, dont le monde dépendra des choix de leurs parents, de nos choix. C'est un vendredi à Bezec. Il y a une route qui sépare. Quand t'arrives sur la route, puis donc à droite, il y a le potager de Christian avec tous les beaux légumes et le beau maraîcher d'ailleurs. Et de l'autre côté, à gauche de la route, il y a la petite maison en chaux chanvre et toit de chaume. Et puis dans le jardin, c'est voilà les deux terrasses, le four à pain, une petite cabane qui sert de boulange. Et où donc moi je fais le pain tous les vendredis.
C'est quoi un vendredi ici ?
Il y a un marché tous les vendredis de 5 à 7. Donc voilà, il y a plein de gens qui viennent, des jeunes, des vieux. Pour moi, c'est une journée assez physique où je travaille un peu. Je pétris voilà, une centaine de kilos de pain. Et c'est le jour où tous les gens passent. Que ce soit les gens qui viennent là tous les jours, qui vivent ici, ou bien les gens qui passent une fois par semaine, ou ceux qui passent que de temps en temps, ils vont passer le vendredi. C'est du pain au levain, et il est pétri à la main, donc ça, c'est, ça existe quasiment plus. Et il est cuit au feu de bois.
La nourriture, ce qu'on ingurgite, c'est, pour moi, c'est essentiel, quoi. On mange, on est ce qu'on mange, quoi. Enfin, c'est un peu comme une philosophie.
Et les gens qui achètent ce pain-là sont, je dirais, dans un état d'esprit de consommation réfléchi. C'est-à-dire qu'on va pas à la boulangerie non plus acheter du pain, une baguette tous les jours, mais on a son pain pour la semaine, donc il se conserve dans un torchon, il vieillit très très bien. Voilà, c'est une bonne tartine, c'est de la farine semi-complète, donc c'est aussi plus digeste, plus nourrissant que de la farine blanche des baguettes, quoi.
Un beau brocoli là.
Ah, les petits. On retrouve le cycle naturel, quoi. On est relié avec les saisons. Ça change complètement la vie, quoi.
Je le fais avec de l'eau de pluie, parce que chez moi, j'ai un capteur d'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est ce qu'il y a de mieux, puisque c'est doux. Ici, on a la chance d'être en Bretagne aussi, quoi. Donc, les vents arrivant de l'ouest, c'est quand même de l'eau de pluie propre. Et ensuite, je fais la pâte à l'eau de mer. Donc, toutes les semaines, je vais chercher mes bidons d'eau de mer à Saint-Guy, à la pointe. C'est une pointe rocheuse. Et je pense pas qu'il y en ait d'autres comme ça.
Je veux faire ce qu'il y a de mieux, quoi, pour moi et puis aussi pour ma fille et aussi pour il y a pas que nous, quoi. C'est aussi la démarche universelle, quoi. Si on veut préserver notre terre, la beauté de notre planète, ça passe par là. C'est logique, quoi. Ouais.
On vit dans une yourte. C'est notre lieu commun. Et moi, je me suis fabriqué une petite maison en terre en forme d'igloo. Donc, ça fait 3 mètres de diamètre. J'ai une petite cheminée, de quoi manger, puis de quoi dormir. Et puis, mon habitat, ben, il s'améliore au fil du temps. Donc, on a maintenant un panneau solaire pour l'électricité. Le confort, je l'ai, quoi. J'ai un luxe énorme, quoi, de me lever, de voir les oiseaux dans mon jardin, d'avoir mon potager à portée de main. D'avoir très chaud, parce que souvent les gens pensent que dans une yourte il fait froid. Et en fait, ben, dès qu'on allume le poêle, il fait rapidement. C'est lourd. Il fait rapidement 30 ou 40 degrés. Enfin, peut-être pas 40, mais 30 sans problème. J'ai un confort de vie énorme. Je suis en adéquation avec mes idées. Voilà. J'ai super luxe.
C'est cet habitat qui nous convient bien. Après, si nous on est bien, notre fille elle sera bien, quoi.
Je pense que c'est l'idée de tribu, moi j'aime bien ce mot.
Parce que communauté, déjà, ça veut dire beaucoup d'autres choses. Et la tribu, c'est on t'est pas obligé de venir. Tu viens quand tu veux, tu habites aux alentours. Et il y a toujours du monde ensemble. Et puis, il y a aussi toujours des gens dans leur coin. Mais jamais d'obligation. C'est la tribu sans hiérarchie, on dira.
Ok, un beau dessin.
Normalement, le four est suffisamment chaud pour qu'on ait le temps d'enfourner tranquillement, quoi, mais...
De nos jours, t'as plein de gens qui sont dans une démarche alternative, on va dire. Mais après, comment dire, c'est pas le tout de manger bio, tu vois, de lire des bouquins sur tout ce qu'on veut. Et il faut le vivre, créer un peu des petits villages, quoi, des petits pôles alternatifs. Parce qu'il y a plein de gens qui souhaitent la même chose. Il y a beaucoup de gens dans les villes, partout dans le monde, qui ont, je dirais, c'est difficile de trouver le mot, mais...
Vivre, tout simplement, quoi. J'ai toujours, je suis plutôt une étincelle. J'ai allumé des étincelles, mais s'il n'y avait pas des bûches, il n'y aurait pas eu de feu. Donc voilà, moi j'ai fait des étincelles, beaucoup d'étincelles. Et puis un jour, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues rajouter des bûches. Et puis voilà, qui ont fait aussi des étincelles après. Et moi, je continue d'allumer des étincelles. Et puis le feu prend ou pas, c'est pas grave. C'est assez enthousiasmant.
Ouais, et puis en plus on a plus d'activités, on peut choisir beaucoup de choses.
Et en plus ici il y a un crachoir.
Un bruit important quand on défourne, c'est ça. C'est pour voir si la croûte en dessous est dure, pour voir s'il est assez cuit. Ou là faut aller assez vite aussi parce qu'après il y a les gâteaux, les potées qu'on fait cuire après. Du coup faut pas trop perdre la chaleur.
Ouais. On croyait que l'an 01 s'était arrêté avec l'an 01, avec ce mode de vie, ces expériences de communauté. C'était oublié, que c'était une vieille histoire du temps de la gueule ouverte, du temps du début des années 70. Et ben non, ça continue. J'ai découvert ça. J'ai redécouvert ça, ou peut-être que... Tout le monde le savait, mais moi j'ai découvert en tout cas des choses comme ça, des façons de vivre dans les Cévennes récemment, par exemple. C'est bon, voilà, les histoires continuent. C'est un très joli documentaire. Et alors donc, on va essayer maintenant de faire notre pain à l'eau de pluie et la pâte à veille de l'eau de mer. Ça ne va pas être tout à fait permis à tout le monde, ça, mais bon. Alors, un autre documentaire, toujours dans cette petite série des La Baffe et des Petits, ça c'est une proposition de Sarah qui fait son portrait.
Je m'appelle Sarah Kérina, je vis et je travaille à Marseille, j'ai 35 ans. J'ai un parcours de comédienne de formation, par ailleurs je suis écrivain, et puis je suis aussi réalisatrice. Voilà, je travaille sur des bandes sonores, des vidéos, voilà. En fait, c'est un enregistrement que j'ai réalisé en 2000 dans la maison de retraite de Issy-les-Moulineaux, où ma grand-mère est donc en fait elle est là-bas, quoi. Arepa, ça s'appelle, bon voilà. Puis je l'ai enregistré dans le courant d'une après-midi du mois de juillet, en fait. Je l'ai monté et tout ça, donc c'est une bande sonore et c'est aussi un livre. Et c'est un projet qui a été diffusé sur Radio Grenouille, sur Marseille.
Radio Grenouille.
Enfin, pour éviter les réponses amères, la carte se retourne et se retournera. Tu peux jamais. Les cartes ne mentent jamais. Tu sais, je savais par cœur avant Carmen.
Carmen, il est par cœur.
Le désistre d'un dé.
Avec un éclat métallique. Et sur cet étrange mutique, les Zingaras se levaient. Les Zingaras, c'est des musiciens. Les trains de l'estice tintaient avec un éclat métallique. Et sur cet étrange mutique, et une garance se levait. Ah oui, je me rends pas compte que ça fait 90 ans que je suis sur Terre, et ça me dépasse. Ça me dépasse, je me dis, c'est pas possible. Pourquoi être si longtemps comme ça? Oh, des fois, j'en ai marre, quoi. Comme j'en ai toujours eu marre.
Oui.
Tu sais.
Oui.
Je dis, j'en ai marre. Et puis, c'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Attends, je voudrais vous voir tout, toi. C'est difficile. C'est humain. Tu veux. Ça a toujours été comme ça, on a toujours été séparés. Hein?
Oui, c'est vrai.
C'est vrai?
Ah. Oui. C'est vrai.
Enfin, pour éviter les réponses de sa mère, les cartes ne mentent pas et sont toujours sincères. Si tu es joyeux, la carte de la joie se tournera joyeuse. Mais si tu dois mourir, tu n'as pas de genoux. La carte impitoyable répétera la mort, toujours. L'amour. Oui. Puis après. Tu vas t'en aller, mamie.
Ah, ce qui compte, c'est le silence après, hein. L'inspiration, le silence, très, 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 très beau. Et ça, c'est fait avec un preneur de son qui s'appelle Paul Anders. Eh ouais, ah oui, la prise de son, c'est comme la prise de vue, hein. C'est une affaire très, très précise. On oriente le micro dans ce sens-là par rapport à l'émission du son et telle qualité de micro, etc., etc. C'est tout un... Mais c'est un art, voilà, tout simplement. C'est un langage et qui est un petit peu en friche et un peu méprisé et ignoré et insoupçonné. Et c'est bien dommage. Alors vous allez avoir envie de vous y mettre vous aussi. Vous dites, c'est formidable, j'ai bien envie de m'y mettre. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez, dans votre coin, trouver une radio associative. Il y a pas mal de radios associatives en France. Qui se plaignent toujours de leur manque de budget, qui ont bien raison, il faudrait que ce soit mieux budgété, tout ça. Parce que, pour des raisons évidentes, pas seulement la communication, pas seulement l'information, mais aussi l'expression radiophonique en elle-même. Alors, voilà, il nous reste encore quelques minutes et on rencontre Mehdi.
Donc, je suis Mehdi Fares. Je suis un éducateur, j'ai été aussi marin, photographe, un peu boxeur. J'ai 40 ans et j'ai créé une société de production radiophonique qui met la radio, qui utilise la radio comme un outil de communication au service de l'action sociale dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Voilà, ces programmes sont diffusés sur des radios locales, des radios locales de proximité dans les Côtes d'Armor, et on essaye de relayer ces programmes dans la presse quotidienne régionale. Le ciel est par-dessus le toit de l'AFDM. Donc, c'est un extrait d'un magazine sur l'AFDM, l'Association des familles de détenus de la maison d'arrêt à Saint-Brieuc. Ça parle de cette association et de ce lieu qui est un SAS qui permet aux familles d'accéder à la maison d'arrêt d'une manière moins brutale. C'est un endroit qui permet notamment de discuter avec des familles qui sont dans des situations identiques, en tout cas qui vont voir leur père, leur frère, leur mari à la maison d'arrêt. Ça permet un petit peu de décompresser. C'est un lieu d'écoute.
Le ciel est par-dessus le toit.
Je mets ma voix sur le terre comme quoi elle ne passe pas parce qu'elle est trop pâle. Merci de la refaire.
Quand on arrive à la maison d'accueil, on a,
On n'a pas de pression. J'ai l'impression qu'au contraire, on décompresse. J'ai l'impression que c'est un soulagement. C'est un soulagement. On dit, ouf, ça nous fait un petit... On est soulagé. On est soulagé un peu. Ça nous soulage un peu.
Autrement, on serait dehors, devant les murs de la prison à attendre, quoi. Et puis on a le café, on a tout. C'est vraiment chaleureux, quoi. On rencontre du monde. Ouais, c'est super.
L'écoute et la parole. Uniquement l'écoute. Et la parole.
Alors, de la fenêtre de la petite cuisine, ouverte sur une grande salle au mur saumon, on a vu sur la prison. Sur l'un des murs saumon, il y a une grande affiche du phare de la vieille et d'autres images d'une Bretagne rêvée, bleue. Ciel bleu, volet bleu, bateau bleu. Sur un autre mur, une note de service de l'administration pénitentiaire rappelle que les parloirs sauvages constitue une violation de l'article D434-35 du Code pénal. Sur le bar qui sépare la cuisine de la salle, sous une horloge indifférente, attendent 5 petites tasses orange et blanche. Il flotte une bonne odeur de café. Il est 13h30 et les familles commencent à arriver. Annie Kéroulet, présidente de l'association qui administre la maison d'accueil, propose un café à une jeune femme. Entre le bureau et une autre salle pour les enfants, Françoise Tanguy, permanente de l'association, discute avec un couple qui vient d'entrer. Aujourd'hui, le ciel est par-dessus le toit de l'AFDMA, l'association des familles des détenus de la maison d'arrêt, à une portée de fusil de la place de la Liberté, rue des Fusillés, en face de la prison à Saint-Brieuc.
La maison d'accueil a été créée en 1991 grâce à l'initiative des visiteurs. Ils étaient le seul lien entre les familles et puis le détenu. Les gens qui étaient avant le parloir attendaient devant la porte par la pluie, le vent, les regards pas toujours bienveillants des gens.
C'est un peu un sas de décompression avant de rentrer à la maison d'arrêt, la maison d'accueil.
On a une ouverture de tous les jours, du lundi au samedi, de 13h30 à 17h, les ouvertures du parloir. Et donc notre porte est ouverte à tout le monde.
Ouais. On se sent moins seul dans la situation dans laquelle on est, qui n'est pas toujours facile à parler à notre entourage. Au moins ici, on peut parler ouvertement. Ça, on est tous dans la même situation, donc on nous comprend, quoi. Il n'y a pas de tabou, ça c'est important.
Et puis ici, elles savent que peu importe ce qu'a fait celui qui est en face, elles ne sont jamais jugées.
Parce que d'aller voir les détenus, c'est pas facile, donc on vient chercher du réconfort ici. Donc c'est important. Et comme ça, ça nous détend avant d'aller là-bas, quoi.
Tout ce qu'on a besoin, en fin de compte, d'être une femme de détenue, et voilà. C'est comme on dit, hein, t'as vu, on est... Bah, ici, le fait de se retrouver avec des familles, pouvoir discuter, ouais, que ce soit avec les familles ou avec les bénévoles d'ici, on peut parler librement, c'est vrai. Alors que si on serait devant la prison, des fois, on attend devant la prison, il y a des gens qui passent en voiture, ils vous regardent, bah, on sait pas trop ce qu'ils pensent, mais ouais, on s'en fout, mais... Voilà, c'est...
Moi, je dis que les familles sont incarcérées à l'extérieur. Elles vont pas faire de la prison, c'est sûr. Elles vont pas aller dans l'enceinte de la prison, mais par le jugement des autres, par la vie que ça va leur donner, il va falloir qu'elles agencent leur journée par rapport au parloir, par rapport aux détenus, quoi. Il faut qu'elles calent les horaires de parloir. Donc, si on travaille, il faut revoir les horaires de travail. Si y a les enfants à les gérer, enfin, il faut tout gérer à l'extérieur, plus gérer la détention de quelqu'un.
Voilà, il est 17h à la maison d'accueil. Les familles ont été appelées au dernier parloir de l'après-midi. La salle au mur saumon s'est vidée. La salle d'attente, et sûrement beaucoup plus. Plus aimable qu'une porte de prison en tout cas. Le ciel est par-dessus toi, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Jean Raoult, Hélène, Colette, Laïla, Sylvie, Karine, Aurélie, Sophie... Merci évidemment à Annie Kéroulet et Françoise Tanguy.
Voilà, merci à tous. C'était la baffe des petits. Il y avait beaucoup d'autres envois, par exemple Nicole Chazalet. l'histoire de la des toilettes, des chiottes, disons, de la Poste de Lyon. Manque de chance, là, au point de vue sonore, la qualité sonore était vraiment insuffisante, c'est dommage. On a aimé aussi le travail d'Aurèle Lorion, Léo Prangère, Zoé Boissel, Chloé Michelon, Valentine Châtelet, Karel Ménine, Marianne Gilles, etc., etc. Tout ça, on se les garde sous le coude pour une prochaine, pour un prochain numéro de La Baffe et des Petits. Vous avez compris que ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous y mettre et de nous envoyer, d'envoyer à Antoine Chao les vos reportages, vos documentaires. Merci donc à Adrien Charmeau, Marine Vlaovic, Sarah Kerina, Paul Anders, le preneur de son, Morgane Tual, Mehdi Fares et l'association Avalon Productions. Et par ailleurs, nous vous signalerons que le festival Musique de Ménilmontant se tiendra jusqu'au 25 mai à Paris, Ménilmontant, hein, avec des concerts tous les soirs à 21h dans les lieux mythiques de Ménilmuche. Seront présents notamment le Saturnal Orchestra Cumbia Ya et les Chevals. Excellent les Chevals, j'aime beaucoup les Chevals et bien d'autres. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Michel Thomas et Aurélie Fortin. C'est Yann Chouquet et Coyenne Guyonne et Antoine Chao qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry qui a la charge, lourde charge du répondeur, dont vous connaissez le numéro 01 56 40 37 37.